écoutez Sériland et dans cet épisode, je vous propose un grand entretien avec Isabelle Camus, productrice, auteure, comédienne, la femme qui nous a offert pendant 4 ans et 435 épisodes les aventures d'un couple, celle d'un gars et une fille. Leur quotidien de couple s'est incrusté dans notre quotidien d'avant 20h, 6 minutes de bonheur, de bonne humeur, avec ce constat implacable, les vicissitudes de ce duo ressemblaient à ce que nous vivions à la maison. Un gars, une fille, série culte, vient d'être élue série française préférée de ces 30 dernières années, selon un sondage Ipsos Sopra Steria, commandé par Télécable Sat Hebdo. Une bonne raison de replonger avec délectation dans la vie de Chouchou et Loulou. Je m'appelle Eva et je souffre d'une addiction. Il suffit qu'un épisode de la série Un gars, une fille apparaisse sur mon écran et c'est foutu. Impossible de me contenter d'une séquence de 6 minutes comme c'était le cas quand je découvrais l'épisode quotidien sur ma télé dont l'écran n'était pas encore plat. Aujourd'hui, il suffit que l'algorithme de YouTube me propose une scénette et c'est parti pour au moins une heure, voire deux heures de sketch. Avec cette question qui revient sans cesse, mais comment les auteurs ont-ils fait pour écrire autant de scènes si réussies et si rythmées? Quels sont les secrets d'un gars, une fille? Isabelle Camus a accepté de nous en dévoiler une partie. Elle revient avec sourire sur ses 4 ans qui ont rythmé sa vie, sur la difficulté à monter financièrement ce projet, le casting avec Jean Dujardin et sur toutes ces scénettes si drôles. Elle a d'ailleurs reconnu hors micro en avoir jeté un paquet, des rushs qui ne seront jamais exploités.
Sériland, épisode 22.
Mais pour débuter cette rencontre avec Isabelle Camus, il fallait retrouver nos deux héros lors du premier épisode, 1999, Alex et Jean sont dans leur lit, une séquence diffusée juste avant le 20h.
Là, j'ai une bosse, là?
Non.
Ok. Et là, j'ai pas une bosse, là?
Non.
Non?
Non, par contre, moi, j'ai l'impression que j'ai une bosse, là, regarde.
Ah bah non, t'as rien.
C'est le pilote d'Un gars, une fille, premier épisode, pilote. En fait, on a fait 3 pilotes parce que je voulais vraiment qu'on arrive à la télévision avec 3 émissions, enfin 3 épisodes, de façon à ce qu'ils comprennent un petit peu la logique et la tournure de l'histoire d'un gars et une fille. Donc ça, c'est le pilote, ouais, et ça se passe à la maison, dans ma chambre, dans mon lit, parce qu'on n'avait pas du tout de sous à l'époque, donc on a fait ça un peu... ambiance avec 3 francs 6 sous, avec les copains, les techniciens qui sont venus... Et si ça marchait, ben, ils étaient engagés. Et si ça ne marchait pas, ben, ils seraient venus juste pour essayer, en tout cas.
Bonjour Isabelle Camus.
Bonjour.
En une phrase, vous venez de nous donner 2 secrets, à savoir qu'il y avait plusieurs pilotes qui ont été faits et qu'on était chez vous, en fait, on était dans votre lit.
Ouais.
Et alors, les autres pilotes, vous vous souvenez des sketchs ou pas? Est-ce qu'ils ont été diffusés aussi?
Je crois qu'on a fait du lit. On a fait aussi la main du lit, oui, parce que le lit, c'était pas cher.
Oui.
En plus, à produire, il bougeait pas. On a fait un déjeuner chez la belle-mère, parce que ça, c'était vraiment très symbolique du couple. Et donc, ça, ça se passait dans notre bureau. On a installé une espèce de salle à manger pour faire le décor de la salle à manger de la belle-mère. Et le troisième, je ne sais plus, d'ailleurs.
Mais alors, quand vous dites que vous étiez dans votre lit, rapidement quand même, quand la chaîne a accepté de diffuser les épisodes, rassurez-moi, on ne tournait plus chez vous, vous aviez un vrai décor.
Bah si, on a tourné pendant 2 ans.
C'est pas vrai, ouais. Chez vous?
Bah oui, c'était plus facile, on démarrait cette production, vraiment avec pas grand-chose. Et on s'est dit, bon bah ça marche bien, le lit fonctionne, on a ça sous la main, si jamais il pleut, si jamais on nous plante, bref, on s'est dit, on aura toujours une sécurité, c'est l'appart. Donc salon, salle de bain... Et chambre, c'était à la maison. C'était d'ailleurs notre maison. J'habitais avec mon associé Hélène Jacques, avec qui j'ai produit le programme. Donc c'était pratique, mais c'était super fatigant parce que le soir, bah, il fallait tout remettre en place, tout ranger. Moi, je suis hyper maniaque en plus. Donc, attention, à gauche, attention, les miettes, là, c'est quoi? Donc c'était un peu. C'était quand même, on se donnait un peu plus de stress, mais en même temps, c'était sympathique parce que. Moi, je voulais tellement que ça soit réaliste. Et le fait de tourner à la maison, c'était très réaliste. Parce que Jean, tout un coup, il cherchait quelque chose pour son jeu. Hop, il tombait sur une lime à ongles à côté du lit. Ou bien la styliste, elle me apportait des chemises de nuit qui ne me plaisaient pas pour Alexandra. Donc hop, on piochait dans ma garde-robe. Enfin voilà, C'était, ça a duré pendant 2 ans, puis après, là, quand même, on s'est dit, bon, là, c'est bon, là, il y en a marre. Et on a loué une maison, après, on a loué une maison à Boulogne. Et cette maison, on a fait comme si on y habitait, parce qu'on ouvrait le frigo, il y avait des choses dedans. On ouvrait les placards, il y avait des draps, des serviettes. Enfin, on était sponsorisé à l'époque par... Enfin, notre partenaire, c'était Fly. Donc, en plus, on avait vraiment tout ce qu'il faut pour la maison. Et on aurait dit une maison qui était habitée, pas non. Du tout un décor de télé.
On a d'ailleurs tous acheté des meubles ensuite chez Fly, je m'en souviens très bien. Et je suis très heureuse qu'on plonge avec nostalgie dans cette période, Isabelle Camus. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous aviez pensé à appeler la série « Une fille, un gars » ou c'était tout de suite « Un gars, une fille » ?
Non, c'est tout de suite « Un gars, une fille ». Mais ça, c'est pas moi. Hein. Le titre, c'est
le format
l'auteur,
québécois, c'est
l'auteur
ça
québécois qui a écrit « Un gars, une fille », cette série. Il en a fait, lui, des épisodes de 30 minutes, parce que ça se passe comme ça en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Il y a des coupures pub. Et en fait, moi, j'ai dit non, il faut faire un 6 minutes chez nous, il faut que ça soit shortcut.
Alors, il y avait deux raisons qui m'ont poussée à vous inviter, Isabelle Camus. D'abord, en cette période anxiogène, revoir des épisodes de la série s'apparente quand même à une immense bouffée d'oxygène. Et puis donc, je le disais en introduction, il y a eu ce sondage publié par Télécapsat qui a mis un gars, une fille, série française préférée de ces 30 dernières années. Deux séries étrangères squattent les premières places, mais Game of Thrones et Casa des Papel. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ce classement ?
Alors, ça serait très prétentieux de dire « je ne suis pas étonnée », mais c'est vrai que quelque part, je n'étais pas si étonnée que ça. Mais c'est quand même vraiment un honneur, passer après Casa del Papel et Game of Thrones. Là, ça prend une dimension encore plus importante. Non, je suis très contente parce que dans une vie, dans une carrière, faire un programme culte, c'est rare et j'en serais fière toute ma vie, évidemment.
Est-ce que vous avez douté du succès de la série ? Vous nous racontiez ses débuts qui étaient un peu quand même rocambolesques parce que vous n'aviez pas d'argent avec Hélène Jacques qui coproduisait cette série avec vous. Est-ce que vous avez douté ou tout de suite vous avez compris qu'il y avait quelque chose ?
Non, je pense que vraiment c'est le destin. Quand j'ai commencé avec Hélène à produire ce programme, j'étais convaincue. Mais convaincue, et je pense qu'on est vraiment convaincue, on est convaincant. Et je ne sais pas, toutes les portes s'ouvraient, il y avait pourtant plein d'obstacles. Puisqu'on avait quand même, avant de tourner le pilote, il y avait des prods qui nous avaient dit « ouais, mais non », des chaînes qui nous avaient dit « oh non, c'est trop québécois, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça ». Ils n'arrivaient pas à comprendre notre vision, donc c'est pour ça qu'on a cassé notre tirelire et qu'on a fait les pilotes. Mais moi, j'étais sûr, on a mis toutes nos économies d'intermittent du spectacle, donc vraiment, c'était un peu coup de poker, quoi. Et non, j'ai pas été étonné, mais en revanche, ça n'a pas été... facile dans le sens où il a fallu quand même s'installer, il a fallu aussi pousser Michel Cotta à une programmation stratégique.
Qui était la patronne de France Télévisions à l'époque, France 2.
Mmh. Et oui, elle nous avait mis à 19h40, qui est un carrefour de publicité, donc on était noyés dans les pubs. Et moi j'insistais, je voulais absolument que ça soit dans la case de Nounours, parce que dans mon enfance il y avait Nounours, juste collé au journal de 20h. Et je sentais qu'il fallait faire un rendez-vous. Et au bout de 6 mois, je crois à peu près 6 mois, oui, ou 6 mois, elle nous a mis avant le journal de 20h. Et là, on a décollé.
Est-ce que vous vous souvenez des critiques dithyrambiques dans la presse ?
Je me souviens des premières critiques qui n'étaient pas dithyrambiques.
C'est vrai ?
Ouais, au début, le programme a eu du mal à s'installer. Il était rejeté, justement, de l'aménageur de moins de 50 ans. Les gens disaient, ouais, c'est bon, on a assez de galères à la maison comme ça, si c'est pour se voir. Enfin, les fameuses études de France Télévisions n'étaient pas terribles. Ça plaisait aux très jeunes et ça plaisait aux plus âgés. Les très jeunes se retrouvaient leurs parents, s'identifiaient, et les plus âgés, bah, avec beaucoup de recul, disaient, bah, oui, sûr. C'est comme ça la vie. Donc ça a mis du temps. Les trentenaires, la ménagère de moins de 50 ans a mis du temps, mais une fois, en revanche, qu'elle était accrochée...
Écoutez, j'ai quand même une critique de Philippe Lançon dans Libération. On ne peut pas imaginer que Libération quand même aille sur un gars et une fille. Écoutez bien ce qu'il écrivait. Soir après soir, on les retrouve, ces deux-là, avec plaisir, comme un miroir déformant et en perpétuelle évolution, ou au contraire, comme un repoussoir. On baigne dans leur mufleurie en rigolant. C'est du Fédot Minute, croquant les nouveaux bourgeois dans une forme pensée pour le petit écran, consommable, jetable, oubliable, renouvelable. Il s'est peut-être trompé sur le oubliable, finalement. Mais c'était quand même incroyable de voir ces critiques dans Libé. Moi, j'ai halluciné en retrouvant ça.
Oui, franchement, on n'avait pas le temps de s'en apercevoir vraiment, parce que nous, c'était quand même l'usine, hein. Parce que faire une quotidienne...
Vous allez nous expliquer ça.
Donc, on lisait, on était heureux, mais on était tellement... On se levait tôt, mais en plus, le soir, après le tournage et le montage, il y avait tout... Enfin, le week-end, on lisait. On a partagé ce succès, mais on n'avait pas le temps vraiment de se dire, ah, c'est génial, on est les meilleurs, quoi. C'est bien après qu'on réalise. Mais c'est vrai que c'est génial, c'est magnifique d'avoir un article comme ça dans Libé. C'est classe, quoi.
Alors, en revoyant des pans entiers de la série, moi, j'ai été bluffée par la modernité et par l'audace des dialogues. Je vous propose un extrait. Nous sommes toujours au lit avec Alex et Jean. Et donc, je répète, on est juste avant le
20h. Mais tu veux pas avoir d'enfant avec moi, et puis c'est tout.
Mais c'est pas que je veux pas avoir d'enfant. Tout le monde a envie d'avoir un enfant. Bien sûr que j'ai envie d'avoir un enfant.
C'est vrai?
Oui.
Ça te tente?
Oui, ça me tente.
Ok. C'est toi qui choisis la position.
C'est vrai?
Bah oui, mais Jean, je tomberai jamais enceinte comme ça.
Bah ouais.
Oh. Isabelle Camus, est-ce que vous pensez qu'on peut réécrire une scénette comme ça aujourd'hui?
J'ai l'impression que c'est compliqué maintenant.
Vous êtes d'accord? Ouais. C'est quand même...
On ne peut plus rire de tout.
Alors, est-ce qu'à l'époque, quand vous lancez la série, vous aviez vocation à diffuser un message décomplexé sur les rapports hommes-femmes? Est-ce que vous pensiez à ça? Ou finalement, vous n'aviez qu'une volonté, c'était de reproduire un peu ce qu'on voit à la maison?
Non, j'aimais beaucoup ce ton réaliste. Et justement, c'est ce que je voulais, c'est justement qu'on puisse être un peu cru parfois. Et on avait un petit peu des soucis. D'ailleurs, je me souviens que Ségolène Royal avait fait tout un scandale en disant que c'était honteux, que c'était beaucoup trop cru, passer ça à la télévision, etc. Mais Michel Cotta m'appelait en disant « Isabelle, un petit peu doucement, là, quand même, les scènes de un peu sexe, etc. » J'adore ça, mais bon, doucement, là, parce que là, je les ai tous sur le dos. Et... Elle avait cette audace, hein, Michel Cotta, aussi, d'installer ça, parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu plus frileux aujourd'hui. Et c'est plus la même télé. Mais non, au contraire, moi, je pense qu'il fallait, voir Jean se couper les ongles des doigts de pied au bord de la baignoire. Il fallait justement rentrer vraiment dans l'intimité, aller dans le vrai du couple. Si, on peut le faire au cinéma encore.
Oui. Et est-ce que vous vous êtes auto-censuré parfois? Ou est-ce que vous avez été même censuré par la chaîne?
Non.
Jamais.
Non.
Vous avez
pu faire
ça. Je
n'ai pas mémoire de ça, non.
Il n'y a pas une scène que vous avez. Vous vous êtes dit, non, il faut qu'on la jette, celle-là, ça va, on va trop loin.
Non, franchement, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'on était. C'était un laboratoire, de toute façon, même le tournage. On avait des textes, mais il y avait beaucoup d'improvisation aussi. Donc, on essayait plein de trucs. Non, je ne me souviens pas du tout de censure. Non.
Et alors, quand vous revoyez ces épisodes, vous vous dites quoi? Que les rapports hommes-femmes n'ont pas finalement tant changé que ça? Ou est-ce qu'on vous étiez en avance sur une forme de modernité de couple ou pas? Comment vous regardez ça avec le recul aujourd'hui?
Moi, je pense que rien n'a vraiment changé. Hein. Franchement, j'ai l'impression que le couple d'il y a 20 ans, et encore aujourd'hui, c'est l'intimité, c'est le quotidien en fait. Après, les hommes ont peut-être un peu plus changé, les femmes ont pris peut-être un peu plus de pouvoir. On ne va pas rentrer dans là-dedans, mais je parle plutôt du quotidien, de la vie de couple à la maison. Ça n'a pas tellement changé, enfin, je crois pas. On s'engueule toujours pour les mêmes choses, en fait.
On est d'accord. Comment ça se passait, les séances d'écriture? Il paraît que vous aviez près de 200 auteurs qui travaillaient pour vous.
Oui, alors ça, c'est une chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mais on avait une bible de textes que nous avons adaptés, des textes canadiens, mais il fallait vraiment... On a fait une grosse adaptation parce que c'était quand même... Ils n'avaient pas le même profil.
Oui, ils étaient un peu plus âgés, hein, si je me trompe.
Plus âgés, elle était un peu nunuche. Alors que là, je la voulais un peu espiègle, étourdie, mais pas nunuche. Par contre, lui, se rapprochait un peu plus. Mais enfin, voilà, on a fait un gros boulot d'adaptation et parallèlement, on écrivait. En fait, au début, on s'est enfermé, j'ai envie de dire enfermé, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a avec deux auteurs à qui on a fait un contrat, puis tout de suite, on a vu que ça n'allait pas. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas bons, ils étaient bons, mais on tournait un peu en rond. Enfin, c'était pas possible. Il fallait vraiment tellement fournir de situations de vie. Qu'on a dit stop, maintenant on va faire travailler des auteurs et ça va être au texte, au sketch. Et puis on a fait appel à plein d'auteurs et tout le monde écrivait. On nous appelait, on nous demandait est-ce que je peux écrire pour un gay fille, bien sûr. Alors moi je choisissais les thèmes, je dis voilà, je voudrais une situation comme ci, comme ça. Et puis il y avait des fois c'était la standardiste qui écrivait, parfois c'était moi, parfois c'était Jean ou Alex qui improvisait un sketch, donc ils étaient auteurs forcément. Enfin, c'était devenu un laboratoire. On cherchait, de toute façon, il y avait des fois, on était en Chine, par exemple, on n'était pas parti avec tous les textes, donc on était obligé de les chercher de l'inspiration juste avant le tournage, quoi.
Mais vous dites, on pourrait pas faire ça aujourd'hui parce que financièrement, vous n'auriez pas les moyens.
Non, les règles de la société des auteurs, la SACD, n'accepteraient pas. Je comprends pas. D'ailleurs, parce que ça a permis à des gens qui n'étaient pas auteurs de devenir auteurs de cinéma maintenant en plus.
C'est vrai?
Ouais.
Donc, vous avez des exemples de gens qui ont commencé avec vous et qui
ouais,
sont...
Ouais, il y a un auteur qui s'appelle Karine, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, c'est que je ne sais plus son nom de famille, j'ai oublié. Mais enfin, qui a travaillé, je pense, avec Alexandra d'ailleurs, et qui maintenant écrit des films. C'est fou, quoi. C'est génial, c'est vraiment fantastique. C'est-à-dire, voilà, n'importe qui voilà, peut être une standardiste, peut devenir auteur. Je trouve que c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus... voilà. Alors, la chance était pour tout le monde, quoi.
Et ça veut dire que vous aviez beaucoup de déchets, entre guillemets, c'est-à-dire que vous jetiez beaucoup de sketchs écrits, hein, c'est ça?
Ah oui. Ouais. On jetait beaucoup, en fait, tous les lundis, on se retrouvait, Jean, Alexandra, moi, et le réalisateur de la semaine, parce qu'on avait plusieurs réalisateurs, et le week-end, on partait avec nos devoirs, c'est-à-dire qu'on avait une espèce de bible de plein de textes à lire, et là, on mettait des notes, oui, non, peut-être, à changer ci, changer ça, et après, on faisait le tour ensemble, au bureau, de chaque texte, donc on en a beaucoup, beaucoup jeté, on en a beaucoup arrangé aussi, on en a beaucoup sauvé, c'était beaucoup, beaucoup de travail.
On en parle depuis le début, mais c'est vrai que la série, elle repose aussi sur un duo, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. C'est Jean Dujardin que vous avez choisi en premier. Mm-hmm. Vous avez auditionné, je ne sais pas combien de comédiens, entre 150 et 200 comédiens, 200, c'est ça ouais. Mais Jean, c'était une évidence pour vous?
C'était une évidence, tout de suite. En fait, j'ai eu du mal à trouver, je l'avais en tête ce personnage, je les avais en tête ce personnage, et je suis un peu, je ne sais pas si on peut le dire à la radio, mais je suis un peu casse-couille, pareil, dans le travail, c'est que quand j'ai un truc en tête, je n'en démords pas, et je ne trouvais pas mon gars, quoi. Ça a été d'ailleurs pareil pour la fille. Parmi les comédiens que j'ai castés, j'en appelais certains avec qui j'avais travaillé, Jean et Bruno Salomon, entre autres. Et Jean m'avait dit « Oh non, moi, je ne suis pas comédien, moi tu sais, je suis humoriste. » Je lui ai dit « Viens, tente ta chance, qu'est-ce que tu as à perdre ?» Et il est venu. Il était pourtant au chômage, en train de peindre la chambre de son futur bébé. D'ailleurs, je m'en souviens très bien comme si c'était hier. Il est venu, il a passé le casting. Et là, au bout de 30 secondes, j'ai dit « C'est lui, c'est sûr, mais c'est lui. » C'était lui, c'était personne d'autre. Quoi.
Et vous l'avez convaincu facilement ?
Bah, il s'est amusé tout de suite en faisant le casting en plus. Il s'est tout de suite régalé.
Alexandra Lamy, c'est elle qui a insisté pour obtenir le rôle.
Ouais. C'est vrai. Enfin, elle a insisté. Elle a passé un casting qu'elle a raté. Et puis, elle a demandé à le repasser, chose qui est rare pour une comédienne. Et puis, c'est rare aussi que les producteurs acceptent. Mais voilà, on appelle ça encore le destin. On a dit oui. Et puis là, il y a eu tout de suite la magie entre les deux. C'était moins évident parce qu'elle n'avait pas encore ce sens du comique qu'elle a acquéri au fur et à mesure et qu'elle fait très bien maintenant aujourd'hui d'ailleurs.
Alors dans la série, il y a donc ce duo, Chouchou et Loulou, et puis il y a une petite galerie de personnages, à commencer par Jeannette, la meilleure amie d'Alex, qui est incarnée par Dany Sénéchal. Scène de vacances avec Alex, Jean, Jeannette et son nouveau fiancé.
C'est la bague que Roger m'a offerte à Singapour l'an dernier.
Ah oui, dis donc.
Et le bracelet, il me l'a offert aux Maldives il y a 6 mois. Mm-hmm. Et mon petit ensemble, tu l'as remarqué ce matin?
Oui.
Eh bien écoute, c'était le mois dernier, pendant les défilés à Milan.
Ah oui.
Arrête, Jeannette, arrête.
Et toi, chérie?
Quoi, moi?
Bah, je veux dire, qu'est-ce qu'il t'a offert dernièrement, ton homme?
Jean, ce qu'il m'a offert?
Bah oui.
Un super orgasme dans les toilettes, il n'y a pas 5 minutes. Il n'y a pas que l'argent, il y a le cul aussi. C'est important, ça.
Est-ce que vous vous souvenez de toutes les scènes ou pas?
Oui.
C'est vrai?
J'étais quasiment tout le temps sur les tournages. Ouais.
Ah oui, mais vous pouvez être sur les tournages, mais pas vous souvenir des 435 épisodes.
Oui, mais après, il y a les montages.
Oui.
Et moi, j'étais là aussi au montage la nuit. Et après, il y avait les montages et best-of. Donc oui, j'en ai bouffé du Ringan Fion.
Vous étiez au bout du rouleau, au bout de 4 ans?
Je pense qu'on avait fait le tour et qu'il fallait, on avait tous envie de faire d'autres choses, mais on s'est vraiment, vraiment éclaté. Mais on a vraiment pris cette décision commune. Moi, j'avais envie de vraiment de faire d'autres productions. Les comédiens aussi, ils avaient besoin de s'envoler. Mais bon, c'est quand même, je pense, ça fait partie des meilleurs souvenirs professionnels de nos vies. On s'est tellement éclatés, on était jeunes, on se marrait tout le temps, non-stop. Puis on voyageait surtout. On avait cette possibilité en plus de voyager, d'aller, on disait où est-ce qu'on pourrait aller, si on allait au Maroc, si on allait en Chine, et on y allait, quoi.
Oui, ce qu'on pourrait pas faire aujourd'hui, je vous confirme. On parlait de Jeannette, qui est un des personnages donc de la série. C'est vous qui avez choisi ce prénom de Jeannette ?
Je sais plus.
Vous ça, en
vous
souvenez pas ?
Colle, je ne me souviens pas. Je pense que oui, mais je suis pas sûre.
Et le fait de choisir Alex et Jean, c'était dans la bible de départ du format québécois, de prendre le prénom des comédiens ? Ou pas du tout ? C'est une décision
oui,
que vous avez prise ?
Pas, on n'était pas obligés, mais ouais. Guy Lepage me l'avait recommandé. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il a eu raison parce qu'ils sont tombés amoureux d'ailleurs.
Ça participait à l'histoire.
Ouais. Au mythe d'un gars et une fille qui dit que... Guy Lepage me disait, tu verras, la plupart du temps, lui il était sorti justement avec la comédienne, il a eu une histoire avec elle, mais presque dans tous les pays...
Où
les
ça a été adapté.
Ouais, les comédiens sont sortis ensemble, enfin en tout cas ont eu une histoire.
La meilleure agence matrimoniale. Arrivé, ouais. D'où vient cette idée de voir ces personnages secondaires que de dos, que de silhouette en fait? Ça vous permettait d'embaucher des comédiens pas trop chers ? Ou c'était aussi dans la Bible ?
Non, c'était dans le concept. C'est ce qui m'a plu dans le concept. Ouais. C'est que vraiment, le focus était sur le couple. Et c'était intéressant de laisser travailler son imaginaire en voyant des mains, des dos. Non, mais d'ailleurs, c'était pas toujours simple à réaliser. Hein. Il y avait des fois, on avait tellement envie, surtout qu'on avait quand même des bons comédiens, on avait envie de les avoir à l'image. C'était frustrant aussi pour eux, mais ça leur demandait vraiment un gros travail, c'est un exercice de style, hein, parce qu'il y a tout un jeu avec les mains, la voix, elle doit vraiment être tout de suite claire et directe dans l'intonation, dans le ressenti. Donc non, c'était le style de réalisation d'un gars et une fille traditionnel.
Alors ben justement, il y en a un qui a réussi en partie grâce à un gars et une fille, alors même qu'on n'avait jamais vu son visage.
Et ça connu comme des pieds, ça. Hein, moi, le. Hé, connard, tu peux regarder où tu vas un peu, non? C'est ça, ouais. Va te faire au foutre aussi, ouais, c'est ça. Putain, hein, moi, là. Tiens, enfoiré, c'est tout. Ah, moi, ça. Hein. Regardez, je mets le clignot, il me laisse pas passer, lui. Regarde-moi ça. Aveugle, là, va t'acheter un chien. Abruti, va.
Excusez-moi, monsieur, mais arrêtez de jurer, c'est intolérable.
Ah, vous savez ce que c'est, madame, hein, c'est inconnu à Paris, hein, c'est stressant. Hein.
Ouais, on s'en fout, un mot de plus et on quitte la bagnole, ouais, ça va. Ouais. Attention,
attention, la voiture qui déboîte là. Mais qui est con,
mais c'est
là.
Pas possible, ça patate, va.
La voix de Mathieu Madénion. Comment vous cassiez tous ces comédiens? C'était, vous voulez, sur l'accent, sur une main, sur une silhouette?
On avait un directeur de casting qui nous convoquait des comédiens, mais on utilisait aussi nos relations, puisque Jeannette, c'est une amie à moi, d'Annie Sénéchal, et Mathieu, c'était un ami de Frédéric Lerner, mon ex, et il m'avait dit, oh, j'ai un copain, il rame et tout, tu veux pas le caster, il a l'accent du midi, je dis, ah, c'est pas mal l'accent du soleil et tout. Donc lui, il est vraiment venu grâce à Frédéric Lerner.
Qui a fait le générique, oui, et qui a fait le générique d'un gars, une fille oui. aussi, qui est un générique qui nous a marqué. Est-ce que dans le format québécois, d'ailleurs, le générique est aussi puissant? Vous savez ça ou pas?
Pas du tout.
Mais ça a été quand même une pièce maîtresse aussi de la réussite d'un gars.
C'est vraiment de la pure création.
Ouais. Vous en souvenez quand vous l'avez conçu?
Oui, je m'en souviens très bien parce que je ne voulais pas du générique musical québécois, qui était un peu pour moi, enfin qui me convenait pas. Je voulais un couple plus moderne, plus jeune, un peu bobo, certains diront. Et j'avais vraiment envie, pareil, j'avais une idée en tête, il fallait que ça appelle la ménagère, appelle les enfants. Il y a quelque chose, une sonnerie. Quand on est en train de faire la cuisine ou faire ses devoirs, tac, on nous appelle une fois, deux fois, trois fois. Et c'est vrai que ça a été très efficace. Et Frédéric Lerner a vraiment bien réussi le cahier des charges que je lui ai donné. Bon, il a mis du temps parce qu'on a retravaillé, parce que je vous dis, moi je suis un peu perfectionniste. Hein. Tant que je n'ai pas le résultat souhaité, je lâche rien.
Mais non, mais je viens de réaliser qu'effectivement c'était comme une sonnerie de téléphone. On était au rappel, il fallait qu'on vienne devant la télé pour regarder.
D'ailleurs, c'est devenu une sonnerie de téléphone
mais
pour
oui,
certains.
Exactement. Alors la scène qu'on a entendue là, c'est dans un taxi, ça ne se déroule pas dans l'appartement. Vous nous disiez il y a quelques instants qu'effectivement vous avez pu partir en Chine, dans les Antilles, etc. Mais ça, j'imagine que c'est le succès de la série et donc qui vous a permis d'avoir les moyens de partir ou tout de suite ça a été accepté par la chaîne?
Mais, ils étaient très contents que, ouais, que l'émission bouge. Chaque décor différent donne une variété. Enfin, la chaîne n'était pas, enfin, ils n'avaient pas de pouvoir de décision là-dessus. On faisait ce qu'on voulait. Hein. Surtout à cette époque-là, on était quand même vraiment beaucoup plus libre. Non, on n'avait pas d'argent pour partir à l'étranger, mais on était malin. Et on essayait d'avoir des aides, des hôtels, des compagnies aériennes, office du tourisme. Non, on avait vraiment, on faisait un peu ce qu'on voulait, parce que eux, ils voyageaient aussi, d'ailleurs, les Québécois, mais pas autant que nous. Nous, on a beaucoup voyagé, parce que moi, j'aime bien voyager. Toutes les émissions que j'ai faites, j'ai toujours voulu aller les faire à l'extérieur, j'ai un peu la bougeotte.
Et alors, comment vous avez vécu, à titre personnel, ces 4 ans? Ces 4 ans de production aussi intense? Vous avez mis votre vie entre parenthèses pour cette aventure télévisuelle?
Je crois, oui. Je crois que j'ai mis un peu ma vie privée entre parenthèses, quoique tout le monde travaillait. Hein. Il y avait Frédéric Lerner qui faisait la musique. Ma mère, elle faisait de la figuration. Mes amis aussi passaient faire... C'était une famille. Mais c'est vrai que j'ai passé plus de temps avec Jean-Alexandra et l'équipe technique qu'avec ma propre famille, ça c'est clair. Mais je me suis amusée. J'avais la tête dans le guidon, comme on dit. Je pensais qu'à ça. Je mangeais un gagne-fille, je buvais un gagne-fille, je dormais un gagne-fille. Mes week-ends, c'était un gagne-fille. Mes nuits, c'était un gagne-fille. Mais je m'amusais. Et les réunions, même tardivement, parfois au bureau, parce qu'on rentrait de tournage, donc on pouvait faire les réunions que vers 9h du soir. C'était pour moi comme si on faisait un jeu de société avec des copains. C'était dur, mais c'était... On s'éclatait, on s'amusait, ça nous rapportait beaucoup de joie, beaucoup de rire. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? C'est rire. C'est mon loisir préféré. Quand j'étais petite, on m'avait dit à l'école, quel est votre loisir préféré? Moi, j'avais mis rire. Quand j'étais en primaire.
Génial.
Et en fait, c'est ça. Donc, en fait, quand je ris, ça devient un plaisir et plus un travail, passion.
Alors, mais alors, pardon pour la question, mais quand la série s'arrête et quand ce projet s'arrête, dans quel état vous êtes?
Oh bah, très bien, parce que j'ai un autre projet et j'enchaîne tout de suite et j'enchaîne. Avec Johnny Hallyday.
Donc, c'est plutôt sympa.
Avec un mythe. Et j'étais très contente de faire J-60, qui était un autre programme pour France 2, quotidien aussi, mais alors qu'il n'y avait rien à voir. Parce qu'on vous demande toujours de refaire la même chose. Quand j'étais à Surprise Surprise, on me demandait de faire, après du Surprise Surprise, un gagne-fille, on m'a demandé de refaire de la fiction humoristique. Là, j'avais envie de faire peut-être des programmes courts, mais dans un autre genre. Donc, suivre Johnny 60 jours avant ses 60 ans, c'était... très passionnant, très excitant et un vrai challenge.
Il n'a pas fait de figuration dans Un gars, une fille, Johnny, où il m'a échappé. Alors en revanche, il y a des guests évidemment qui se sont imposés au fil du temps, dont lui.
Excusez-moi.
Oui.
Vous savez où est-ce que je peux trouver le dernier disque de Plastic Bertrand?
Oui, je crois que vous pouvez le trouver à Variété Française là-bas.
Ah, d'accord, merci.
Et alors évidemment, Alexandra Lamy vient de poser la question au vrai Plastic Bertrand. Comment vous choisissiez ces guests à l'époque?
Comme ça.
C'était les rencontres aussi, les copains des copains?
Il y en avait beaucoup que je connaissais, c'est vrai. C'est plus facile de décrocher son téléphone. Plastic Bertrand, c'était parce qu'on avait... Je crois que l'auteur aussi avait mis peut-être un truc, ça plane pour moi. Enfin, bon, je sais plus trop, mais bon, c'était comme ça au gré des envies.
Mais vous étiez sollicité, j'imagine qu'avec le succès de la série, certains vous ont téléphoné pour vous dire j'aimerais bien faire une petite figuration. Non,
non, pas vraiment, parce que en fait, pour eux, c'est un gagne-fille, c'était Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Mais en fait, on faisait des émissions de Noël. Des spéciaux, comme on dit. Et bon, ben là, je trouvais ça intéressant de mettre des guests. Mais non, c'est nous qui les sollicitions. Ils étaient très contents. Alors, il y en a beaucoup qui n'étaient pas comédiens, donc c'était un petit peu... Je me souviens qu'ils étaient parfois impressionnés, ils avaient le trac.
Est-ce qu'il y a eu des politiques?
Non.
Je me suis demandé si vous avez un peu sollicité pour faire passer certains messages, parfois.
C'est dommage, j'aurais pu demander à Jean-Louis Borloo, je pense qu'il aurait été très bon.
Pourquoi vous pensez à lui?
Parce qu'il est sympathique et que ouais. Je pense qu'il serait très bon, il aurait été très bon.
Ben, peut-être que vous pouvez refaire un programme.
Mais voilà,
et vous l'invitez.
Un politicien comme ça, voilà, oui. pas un mec trop tendu, on va dire.
Mais alors, donc, c'est ce que vous disiez, on parlait de politique tout à l'heure, mais vous racontiez que Ségolène Royal avait critiqué la série. Comment vous aviez accueilli ces critiques à l'époque? Vous étiez trop le nez dans le guidon et finalement, on s'en fout. Le fait que Michel Cotta prenne son téléphone pour vous dire « attention, je les ai un peu sur le dos », ça...
Non, on avait trouvé ça un petit peu réactionnaire, quoi.
Ouais.
Un peu décevant pour une femme en plus. parce qu'on aime les femmes, étant donné qu'on est quand même une prod beaucoup de femmes, ça ne nous a pas non plus plus inquiétés, parce que Michel Cotta, c'était une femme, mais avec une personnalité de mec. Donc voilà, on était soutenus.
Vous parliez de l'importance des femmes dans la production et à l'écran. C'était quelque chose auquel vous teniez, auquel vous étiez attentive, qu'il y ait beaucoup de femmes dans cette production, ou c'est le hasard des rencontres?
Non, j'aimais bien travailler avec des garçons, et on avait quand même quelques garçons, hein. Mais c'est vrai qu'en majeure partie, dans les bureaux, c'était des femmes. Alors après, je ne veux pas faire un truc sexiste, parce que ça va être, on va me dire, ouais, bah, bravo. Mais j'avoue que souvent, les nanas, elles lâchent pas. Elles lâchent pas. Donc j'aime bien cette ténacité féminine. Mais les garçons travaillent très bien aussi, hein, que les choses soient claires. Et on avait besoin justement aussi de cette énergie masculine. On a toujours besoin des hommes, de toute façon. Je pense que les hommes ont besoin aussi des femmes. Mais c'est vrai que les filles, c'est tenace.
Alors la série se termine sur un mariage, avec un banquet. Et parmi les seconds rôles, il y a une femme de dos.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein?
Vous êtes très belle. Vous avez un regard très lumineux, un sourire ravageur. Faire d'aller tous les mecs. C'est magnifique, hein, c'est vrai, c'est sincère. Malgré votre beauté, je n'éprouve rien. C'est bizarre, hein. Vous savez pourquoi?
Non.
Parce que j'aime ma femme.
Quel ringard.
Ouais.
Moi aussi, je t'aime, Lolo.
Qui est de dos, Isabelle Camus?
C'est moi. Mais ça m'est souvent arrivé. Hein.
C'est vrai?
Oh, d'abord, j'adore ça. Ça m'amusait beaucoup de le faire. Et puis, en plus, on n'avait pas la possibilité d'emmener beaucoup de comédiens. Et puis, je crois que les comédiens se régalaient aussi à chaque fois. Ah, là, les gens disaient, c'est Isa. Ouais, Isa, et hop, ils adoraient ça. On s'amusait, ils se faisaient rire de jouer avec moi. Et elle aussi, d'ailleurs. Et non, je le faisais souvent. Ouais, j'aimais ça. Je maîtrisais parfaitement les personnages, donc forcément.
Est-ce que vous avez produit ou travaillé encore avec Jean Dujardin par la suite, avec Sandra Lamy, ou pas du tout? La situation ne s'est pas produite, hein?
Non, plus du tout, parce qu'ils se sont envolés.
Mais oui.
Ils ont fait du cinéma, et j'étais très contente pour eux, d'ailleurs, ils ont excellé.
Mais oui, mais comment vous regardiez ça? Quand vous voyez Jean Dujardin partir aux Oscars, remporter son Oscar, comment vous réagissez, vous? Parce que vous les avez vus débuter, ces deux comédiens.
Alors, moi, c'est pas... Quand je regardais Jean aux Oscars, je regardais pas le gars d'Un gars et une fille. Je regardais Jean.
Le comédien.
Le comédien.
Ouais.
Et tellement mérité, tellement contente pour lui, parce que je trouve que c'est un comédien extraordinaire. Il a ça dans les veines, et j'ai toujours énormément cru en lui.
Pardon pour la formule bateau, mais Un gars et une fille a vraiment changé votre vie? Ou pas tant que ça, finalement? C'est un projet comme un autre sur lequel on s'éclate un peu plus qu'un autre?
Je me suis toujours éclaté, moi, dans les émissions que j'ai faites. Hein. Donc, je me suis éclaté à Surprise, Surprise aussi avec les Québécois. Ça reste des beaux concepts et des très belles années professionnelles de ma vie, parce qu'en humour, si ça a changé ma vie, peut-être j'ai gagné un peu plus de notoriété et surtout de l'argent dans ma tirelire, forcément, parce que ça a quand même duré pendant 4 ans. On a vendu beaucoup de DVD, beaucoup de VHS. Donc ouais, en tant que producteur, on avait fait un pari, mais on avait tout misé, mais ça nous a bien rapporté aussi.
Vous repensiez souvent aux premiers instants où justement vous tourniez dans votre chambre et où c'était les économies que vous aviez réunies pour tourner les premières scènes?
Oui, et on est d'autant plus fiers, parce que quand on se souvient avec Hélène, on était au chômage. J'avais claqué la porte de la prod pour laquelle je travaillais. Elle aussi, en même temps, s'est retrouvée au chômage. Et on était comme des petites fourmis à la maison. C'était, je crois, d'ailleurs, l'hiver, il faisait gris. Et puis, bon, voilà, on a eu cette idée d'aller chercher le programme Un gars et une fille, de l'adapter. Mais rien n'a été facile, par contre. Hein. Ça a été quand même un combat, parce qu'on n'avait pas de sous, il fallait demander des droits, on n'était pas une prod. Donc, voilà, il a fallu vraiment justifier de notre intérêt, écrire, donner la vision à l'auteur, au producteur, leur demander de nous donner les droits pour un franc symbolique, en échange de quoi on leur ferait un pilote. Ils ont accepté.
Et si, la question impossible, si vous deviez retenir une seule scène d'Un gars et une fille, de ces 435 épisodes, ce serait laquelle?
Oula, ça c'est un piège ça. Toutes les scènes, on rigolait tellement. En fait, c'est plus un décor. Quand on tournait au bureau, on faisait des bureaux, d'ailleurs. En général, c'était, oui, Jean était au bureau et elle était au bureau. Peut-être que c'est là, parce qu'on était enfermés dans cette pièce, notre pièce de réunion, avec toute cette équipe. On avait chaud, les projecteurs, etc. C'était vraiment épuisant. Et il y avait des fous rires. Ou dans la salle de bain, dans ma salle de bain aussi, parce que c'était minuscule, pareil. Dans la salle de bain, ouais, j'ai Jean dans la baignoire avec Alex, les crèmes anti-rides, tout ça. J'avoue, on rigolait bien et pourtant, c'était pas ce qui allait être plus confortable. Mais l'île Maurice, la plage, aux Seychelles aussi. Non, il y en a trop, je ne pourrais pas en garder qu'un seul.
Moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous en refaites un, de programme. Je sais qu'on vous demande toujours ça, mais vous en refaites un. Nous, on vient travailler avec vous, avec l'équipe de Seriland, et on fera des voyages avec vous. Je trouve ça pas mal comme
proposition.
Et on
rigolera bien.
Et on rigolerait bien, évidemment. Merci infiniment, Isabelle Camus, de nous avoir permis de replonger dans cette aventure télévisuelle d'un gars et une fille. Aventure qui se prolonge désormais sur nos écrans, via YouTube, via Twitter aussi, où vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série devenue culte. La semaine prochaine, deux nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. Des épisodes très féminins encore. Le premier sera consacré aux femmes badass, ces héroïnes fortes, courageuses, qui prennent le pouvoir dans la vie et les séries. Le second sera un grand entretien avec la scénariste Virginie Braque, qui nous offre une série avec des personnages féminins puissants, Cheyenne et Lola. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par une femme et quelle femme, Adèle Ponticelli, réalisé par un super homme, Christophe Pierrot, et préparé en coulisses par des garçons et par des filles, Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite et surtout je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur le groupe Facebook Seriland. Et puis attention, vous le savez, dans Seriland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.